Combien de temps Dieu va-t-il patienter pour juger notre planète? Ce matin, dans mon culte personnel, je viens de recommencer ma lecture de la Bible, j'avais fini, et j'étais en Genèse 19, la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Combien de temps Dieu va-t-il attendre, patienter pour intervenir dans notre monde? Je n'ai pas de réponse à cette question, bien sûr, mais ça ne va pas durer éternellement. Et quand on lit tout cela ensemble, on se dit peut-être que tout cela est pour très bientôt. Peut-être que l'Antichrist dont nous allons parler ce matin, peut-être qu'il est à la porte. Alors il s'agit de pouvoir le reconnaître. Essentiellement trois textes, Daniel 7, 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 13. Si vous avez votre Bible, ce sera utile de l'avoir. Si je peux peut-être juste un moment montrer mon livre.
Oui, c'est bien, on le voit.
Si vous voulez les notes, eh bien, ils sont là-dedans, à différents endroits. Et vous finirez par le trouver. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Du moins, je l'espère. Voilà. Fini de la page publicitaire. La prophétie de Daniel. Situons très courtement cela dans le temps. Cela aussi est un temps extrêmement intéressant. Le règne de David était aperçu comme le règne de Dieu sur terre. Dieu avait son trône dans le temple sur terre. Le royaume de Dieu était visible et il était en Israël. Puis, et très vite, tout va se gâter et quand vient le temps de la fin du règne du roi Uzzias, la fin est proche et les prophètes de la fin apparaissent, notamment Jérémie. Jérémie qui va raconter assez clairement du temps de Josias et du temps de ses successeurs que la fin est proche. Et on va bien sûr ne pas le croire. On va le traiter, très moderne, de complotiste. On va même l'emprisonner parce qu'il serait un complotiste. C'est un paniqueur. Il n'y a rien à voir. Circulez. Tout va bien. Le temple de Dieu est parmi nous. Vous connaissez le récit. Et pourtant, il disait vrai. Il n'était pas cru. Je n'ai aucune idée combien Jérémie a eu de disciples ou de gens qui ont cru en lui. Peut-être que ça se compte sur les doigts des deux mains. Dans le livre de Jérémie, on ne semble pas trouver trace de beaucoup de gens qui se sont laissés convaincre. Il y en a sans doute eu plus que 10, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Pour la plupart des gens, il n'était qu'un vulgaire complotiste. 5 ans après la mort du bon roi Josias, un des meilleurs rois de Juda, 5 ans après sa mort, la première déportation a lieu. Daniel est déporté avec sans doute Ézéchiel et bien d'autres à Babylone. Et tout à coup, la prophétie prend un autre sens. Même si en Israël, en Judée, on ne prend pas encore conscience du sérieux de la situation. Mais le compteur dans la prophétie est en marche. C'est le début des 70 ans de la captivité annoncée par Jérémie. Désormais, le royaume de Dieu ne sera plus sur terre. Quand Jérusalem est détruite en 586 avant Jésus-Christ, c'est fini du royaume de Dieu. C'est le temps Ça, c'est un sens Nouveau Testament assez connu. C'est le temps des nations qui démarre avec Nebuchadnezzar. Je pense à la vision de Daniel 2. C'est le temps des nations qui va aller du temps de Daniel jusqu'à notre temps, jusqu'à la venue de l'Antichrist. Luc 21, 24 nous rappelle que Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. Les temps des païens ne sont pas encore accomplis. Et la petite parcelle de Jérusalem, qui est sans doute la parcelle clé, le mont du Temple, est toujours foulée aux pieds par les païens. On n'est pas encore tout à fait à la fin, mais, nom d'une pipe, on est tout près. Daniel était au début, nous sommes à la fin. Quatre royaumes dominent la scène mondiale dans la prophétie de Daniel de son temps jusqu'au temps de l'Antichrist. Babylone, Perse, la Grèce, temps d'Alexandre le Grand, et puis Rome. Le chapitre 7 de Daniel nous en donne plus de détails sur notamment la manifestation de ce quatrième royaume et dévoile la montée en puissance de celui que dans Daniel on nomme la petite corne. Corne était l'image de la puissance dans la culture de ce temps. Et puis Daniel annonce que au temps de la fin, le règne changera de main, le temps des nations sera donc fini, le Fils de l'homme descendra, Daniel 7, 13, et le règne sera donné entre les mains des saints du Tout-Puissant, Daniel 7, 27. La quatrième bête, le quatrième règne de Daniel 7 et donc de Daniel 2, le quatrième règne, c'est Rome, il n'y a pas ombre d'un doute, un règne de fer, d'ailleurs, c'est Rome qui va réellement mettre en avant l'usage du fer et qui, par ses armes modernes, va régner. En Israël, Rome régnera à partir de 67 avant Jésus-Christ, la conquête par Pompée. Et jusque quand? Là, il y a bien sûr de la discussion. On va dire, mais Daniel 2 annonce la venue de cette petite pierre qui descend d'une montagne, c'est le Messie. Donc, la fin de Daniel 2, c'est la naissance ou la mort ou la résurrection du Messie. Mais en Daniel 7, ce n'est pas ainsi, et donc peut-être en Daniel 2, pas non plus. En Daniel 7, ça s'achève avec le règne du Messie et le règne des saints du Très-Haut. Mais ce règne, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Manifestement, en Daniel 7, ce règne est décrit en trois étapes. Il y a l'Empire qui prend fin en 475 après Jésus-Christ. C'est la fin de l'Empire romain. C'est la fin et pas tout à fait la fin, parce que à peine 300 ans plus tard, l'Empire renaît avec Charlemagne et le Saint-Empire romain, c'est le titre officiel de l'Empire allemand que nous connaissons dans notre histoire belge avec Charles Quint et Philippe II, mais Charles Quint notamment, avec la présence des Autrichiens qui prennent l'Empire et tout ça, c'est en fait la continuation de ce Saint-Empire romain, et nous avons non pas vécu, probablement, il faut déjà être très âgé, mais nous avons connu de très près l'Empire qui s'est toujours intitulé le Troisième Empire, bien qu'en général on entend ça plutôt en allemand, Das Dritte Reich. Et ça, c'est bien sûr ce que Hitler croyait, Et c'est pour cela que c'est le troisième empire. Ça suivait Rome, ça suivait Charlemagne, et maintenant, ça devenait l'empire de Hitler qui allait durer 1000 ans et qui, heureusement, n'a pas donné duré 1000 ans. Après, il y a une deuxième étape que Daniel 7 souligne et pour laquelle on n'a aucun détail. C'est la division en 10. Les 10 orteils de la statue de Daniel 2, les 10 rois, les 10 cornes en Daniel 7, les 10 rois que nous revoyons en Apocalypse. Mais bien qu'on aura tout essayé pour les faire entrer dans le corset de l'Union européenne, en fait, nous ne savons pas. Nous ne pouvons toujours pas les identifier. Bien mal venus serions-nous d'essayer à tout prix de dire, ah, c'est ça. C'est peut-être l'Union européenne. En soi, la pensée n'est pas du tout étrange, dans le sens que l'Union européenne est la continuation géographique de l'Empire romain, plus ou moins, bien sûr. Troisième étape, c'est l'étape de la petite corne qui va enlever 3 des 10 et qui va se mettre à la place. Il y aura un développement historique de l'un envers l'autre et vers la fin, nous ne pouvons pas en dire énormément. Après cela, c'est manifestement le règne de Christ qui remplace les autres et pourtant qui n'anéantit pas tous les autres. Daniel 7, verset 12, ma Bible devant moi, ça sera plus simple. Daniel 7, verset 12 nous dit, quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. Et nous ne savons pas jusqu'à quel temps et quel moment. Cela n'est pas transmis. Mais il est évident que le règne de Christ, d'après Daniel 7, 12, et il y a des équivalents en Apocalypse 21, ne signale pas la fin du monde et la disparition totale des royaumes de ce monde. Pas le temps d'entrer là-dedans, ce n'est pas le but, mais cela est pourtant mentionné. Jésus va s'appliquer le texte de Daniel 7, verset 13, en disant qu'il est le Fils de l'homme qu'on verra venir avec les nuées du ciel, et c'est la raison de le condamner à la crucifixion en Matthieu 26. Apocalypse 11, verset 15, nous dit qu'au son de la dernière trompette, la septième, Christ entre dans son règne. Le règne des nations est transféré à Christ. Et la septième trompette n'a toujours pas sonné. Donc, d'après Apocalypse, cela aussi est toujours futur. Cette petite corne qui nous concerne ce matin, qui est l'Antichrist, cette petite corne qui vient à la place de 3 des 10 rois, mais on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'on ne l'a pas encore vécu. C'est annoncé, c'est dit, mais nous ne pouvons pas donner l'identité des 10 rois. On peut avoir des soupçons, mais on ne peut pas aller plus loin. Et je pense qu'on ne doit pas enseigner des soupçons à l'Église de Jésus-Christ. Autrement dit, le temps exact de la prise du pouvoir de l'Antichrist, nous ne pouvons pas encore en dire grand-chose. Même si nous avons beaucoup de raisons de croire que tout ça est devenu terriblement proche. Ce que le texte de Daniel dit clairement, c'est que cette corne qui avait des yeux une bouche parlant avec arrogance, Daniel 7, verset 20, et une plus grande apparence que les autres. L'arrogance de cette corne est soulignée en Daniel 7, ça va revenir en Apocalypse 13. Cet homme est manifestement un beau parleur, ça sonne très négatif, c'est un peu voulu. Mais il est évident que ça ne passera pas comme très négatif quand cela arrive. Notre monde raffole de bons orateurs, d'orateurs charismatiques au sens général du terme. Notre monde s'est toujours laissé prendre par la bonne parole d'un beau parleur. Le dernier en date était sans doute Adolf Hitler, qui fut un parleur électrisant et sans doute démoniaque. Mais les gens étaient magnétisés par l'art oratoire de cet homme. Moi, regardant ça aujourd'hui avec un recul, quand je vois des enregistrements de Hitler qui parle, je me pose la question pourquoi cela a attiré tant les gens. Mais ça a attiré les gens par millions, avec les conséquences tristes que nous connaissons. Il est dit en Daniel que cette petite corne, qui est sans doute un roi, mais pas nécessairement un roi constitutionnel, il ne va pas nécessairement sortir d'une des monarchies européennes. C'est sans doute une personne. Je ne pense pas personnellement que l'Antichrist soit seulement un principe, une idée, une philosophie, un état d'esprit. Il y a tout cela, mais je pense qu'il y a plus. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Apocalypse 13 revient là-dessus. L'Antichrist va faire la guerre aux croyants qui sont les saints. Dans le texte de Daniel et la compréhension de Daniel, manifestement, le peuple juif. Dans la compréhension du Nouveau Testament, nous devons sans doute élargir cela à l'ensemble des chrétiens. Et encore, parce qu'en disant l'ensemble des chrétiens, on ouvre la porte bien sûr un peu grand. Qui font partie de l'ensemble des chrétiens? Disons, pour faire simple, les vrais chrétiens, sans essayer de définir davantage. Et cela durera, verset 22, jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours pour rendre justice au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui est clair, c'est l'anti-judaïsme, aujourd'hui nous dirions l'anti-sionisme, et l'anti-christianisme invétéré de l'antichrist. Ça, c'est une de ses marques de fabrique. Ça devrait bien sûr nous intéresser. Nous sommes peu à peu, et heureusement, rendus conscients de la persécution. Et chaque année que Portes Ouvertes publie sa liste des 50 pays, le nombre de chrétiens persécutés augmente. De 240, si mes souvenirs sont bons, de l'année passée, nous sommes passés aujourd'hui à 310, 320 millions de chrétiens qui vivent sous la persécution. C'est invraisemblable. Nous voyons aussi l'antisémitisme se redresser comme dans les années 30 avant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Juifs sont de nouveau la cible publique d'un antisémitisme contre lequel les autorités ne réagissent pas toujours. c'est des temps intéressants et anxieux. Une persécution active est manifestement réussie, et cela aussi devrait nous inquiéter. Nous y reviendrons tout à l'heure, après la pause café, en parlant de 2 Thessaloniciens 2. Donc, une persécution active est sérieusement réussie. Une action, de nouveau, mystérieuse. Il essaye de changer les temps ou les saisons, ça dépend des traductions. Certains traduiront le calendrier. Est-ce qu'il essaye d'intervenir sur le calendrier juif? C'est probablement ce que Daniel avait compris. Et il espère changer la loi, ce que Paul va remettre en avant-plan dans 2 Thessaloniciens. Nous y arriverons. Ce texte mystérieux de Daniel, on ne va pas bien sûr la brosser sous la carpette. Nous ne voulons pas qu'il soit invisible. Nous devons manifestement être conscients que le temps que nous avons vécu, la normalité d'avant mars 2020, cette normalité est probablement partie pour de bon. Personnellement, je ne crois pas que cela reviendra. Je pense que nous sommes partis pour le plongeon vers l'Apocalypse. Nous sommes quelque part en Apocalypse 6. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous avez pu connaître ce que je dis là-dessus. Mais je pense que nous allons très rapidement aller vers les temps de la fin. Je suis vice-président du Synode fédéral. À une réunion de notre conseil exécutif, c'était avant le Covid. Il y avait un programme, un point sur l'agenda de la réunion précédente où malheureusement j'avais dû m'absenter. Et c'était le point un peu énigmatique, 2033. Et je me suis demandé, mais de quoi est-ce qu'ils ont parlé? Et donc j'ai posé des questions. Ah, en 2033, il y a des chrétiens qui préparent des grandes festivités pour célébrer les 2000 ans depuis la résurrection de Jésus. Et j'ai dit à un de mes collègues, un peu enthousiaste là-dessus, j'ai dit, ah, mais j'espère que vous aurez une bonne célébration. Moi, j'espère être ailleurs. Je pense que l'Église ne sera plus de ce monde en cette époque-là. Je ne pense pas qu'on célébre. Et je pense que nous avons vraiment d'autres chiens à fouetter. Si nous allons sur les temps de la fin, et nous le voyons autour de nous, nous allons sur une persécution mondiale. Et c'est à cela que nous devons préparer les gens. C'est là où je vais reprendre après. L'Ancien Testament, les deux autres textes, c'est donc le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens 2. Connaissez ce texte où Paul commence par dire « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Bien que le mot n'est pas le mot qu'il utilise dans la première lettre pour le fait que l'Église est enlevée, le mot ici en grec, bien traduit par rassemblement, indique bien sûr ce qu'il avait dit au chapitre 4 de la première lettre, qu'il s'agissait que les chrétiens, nous serions enlevés avec le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. En lisant ce matin en Genèse 19, j'ai dû penser à cela quand les anges disent à Lot, pars, cours, fais vite, tant que tu n'es pas parti, nous ne pouvons rien faire. Je pense que c'est un principe assez clair que la colère de Dieu n'est pas destinée aux siens. Paul rappelle à deux reprises dans la correspondance thessalonicienne que Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Donc, c'est ce que je vois en action en Genèse 19, et c'est ce qu'à la fin des temps aussi est le cas. Avant ce rassemblement auprès du Seigneur, nous dit le texte, et Pierre dit, Paul dit qu'il ne faut pas se laisser ébranler par des fausses lettres ou des fausses révélations, que personne, verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie. Autrement dit, Paul est assez clair que notre rassemblement auprès du Seigneur n'aura pas lieu tant qu'il n'y a pas deux événements qui se soient passés, l'apostasie et la révélation de l'homme sans loi, de l'impie. Il n'y aura donc pas, il me semble que c'est la conclusion, c'est la seule conclusion que le texte nous permet. Il me semble que donc, il ne faut pas se laisser aller à des imaginations qu'avant qu'il y aurait quoi que ce soit comme problème, nous serons partis avec le Seigneur dans les airs. Cet enseignement a été répandu dans beaucoup de nos églises, par beaucoup de livres, etc. Et je pense que cet enseignement n'a pas de fondement dans l'Écriture, du moins, moi, je ne l'ai pas trouvé. Je continue à chercher, parce qu'il faut rester ouvert, mais je ne le trouve pas. Et je trouve ici, justement, une mention expresse du contraire. Et je pense que, de nouveau, nous devons préparer l'Église à un temps difficile. Je ne vais pas parler de l'apostasie, elle est visible autour de nous. Et c'est nouveau. Regardez en arrière sur 2000 ans d'histoire d'Église. Vous n'avez aucune période qui ressemble à la nôtre. Nous avons connu 2000 ans d'expansion du christianisme. Nous avons assisté dans les derniers 40-50 ans à une période d'apostasie dans l'Église de Jésus-Christ. Je me rappelle, autour du temps que je suis arrivé en Belgique, en 1970, partout en Europe, nos églises étaient pleines, catholiques, protestantes, orthodoxes, anglicanes, évangéliques. Partout, il y avait du monde. Je me rappelle qu'un de mes amis, qui est pasteur en Flandre, a logé chez nous. En cette époque, il avait été éjecté manu militari de la maison de ses parents parce qu'il était devenu chrétien. Et il dit, chez nous, à l'Est, dans le village, 5000 habitants, quelque chose comme ça, dans le village d'où je viens, le dimanche, ben, il dit, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne va pas à l'église. Tout le monde se trouve dans l'une des deux ou trois églises du village. Et ça n'avait rien d'exceptionnel. Me rappelle jeune, quand on allait au culte, mais on allait partout au culte. Toutes nos églises étaient pleines. L'église de ma jeunesse, il faut bien s'imaginer qu'on était, on avait un bâtiment qui pouvait contenir autour de 1100 personnes. Et pour asseoir tout le monde, il y avait deux cultes. Je veux dire, quand on entend ça aujourd'hui dans certaines méga-églises, ben j'ai connu ça de ma jeunesse, c'était normal. Et dans d'autres églises, on était plus nombreux que ça. Puis est venue l'apostasie. Puis est venue la prospérité. Et en un rien de temps, sur 40 ans, d'une fréquentation entre 90 et 100% dans nos pays, la fréquentation au culte, aux messes, à tout ce qui se vend dans le domaine chrétien ou vaguement chrétien, on est parti à aujourd'hui 6-7% peut-être. Et peut-être qu'on est encore trop optimiste. Et certainement dans ces temps de Covid. Autrement dit, nous avons vu cette période d'une régression du christianisme. Et ce n'est pas qu'en Europe, en Amérique, me semble lire les choses extrêmement pareilles. Pas aussi dramatique, dans tous les pays européens, ce n'est pas au même titre, mais la dégression est tout aussi évidente partout. Nous sommes au bout de ce temps d'apostasie. Nous le voyons aussi dans la perte totale de tout repère chrétien dans la société. C'est fini. On n'a plus des chrétiens autour de nous. Moi, j'ai connu la rue, ben, on avait plusieurs personnes qui allaient à la même église que nous et d'autres qui allaient dans d'autres églises. Je pense que dans ma rue, je suis le seul à aller à l'église le dimanche, du temps qu'on avait des cultes. L'apostasie, je pense, est là. Et la deuxième chose, avant l'enlèvement, nous dit l'Écriture, c'est que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Est-ce que nous allons voir l'Antichrist? Je pense que la Bible dit que oui. Et il faut donc se le mettre en tête que nous devons veiller que notre foi et la foi des gens de nos églises puissent résister à cela. Ça, c'est notre responsabilité sous la conduite de l'Esprit de Dieu. L'identité de l'Antichrist. Il est l'homme sans loi, anomos en grec. Un homme sans principe. Un homme, on peut parfois rencontrer ce genre de traduction, l'homme de la révolte, l'homme du péché selon une lecture variante dans le grec. L'homme destiné à la destruction. Exactement, textuellement, la même expression qui est utilisée pour Judas. Je pense que j'ai noté le texte quelque part, dans Jean 17, 12. Pour l'Antichrist, Paul utilise exactement la même expression. Il est l'adversaire, l'ennemi, l'anti-Dieu par définition. Pas l'anti-spirituel, pas l'anti-religieux, parce qu'il veut être adoré, il veut être Dieu à la place de Dieu, calife à la place du calife. Il est orgueilleux, Daniel l'avait déjà dit, jusqu'à vouloir s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça, c'est bien sûr un texte qui a fait couler de l'encre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Tout d'abord, ce qu'il ne faut pas comprendre. Dans l'Apocalypse, il est question du temple de Dieu dans le ciel. Ce n'est bien sûr pas là que l'Antichrist puisse imaginer de s'asseoir un jour. Le sanctuaire céleste est nécessairement exclu. Le temple de Ézéchiel 40-48 est aussi exclu, parce que manifestement, il n'est pas encore construit. Et manifestement, d'après le texte, l'Antichrist ne pourra pas s'asseoir là-dedans. Ce qui reste, quelques options, les suivantes. Tout d'abord, on a compris cela de façon spirituelle et symbolique. Le temple ici est image de l'Église. Et l'Antichrist va donc s'asseoir dans l'Église. Ça me semble, à prime abord, assez étonnant, parce que justement, L'Antichrist, et le nom le dit très bien, est l'Antichrist. Il n'est pas un faux Christ. Il n'est pas un faux frère. Il n'a jamais été frère. Il est un ennemi. Et pour qu'il s'assoie dans l'Église au sens qu'il la dirige, je n'ai nulle part dans l'Écriture de quoi soutenir ce genre de point de vue. J'ai donc tendance à ne pas y croire. Le sens qu'on veut alors y donner, c'est que, bon, ça veut dire que Dieu protège tout de même les vrais chrétiens et les autres se perdent parmi les nations. On lit, et c'est assez raisonnable, on lit avec le début de Apocalypse 11, où Jean doit mesurer le temple et abandonner une partie de la cour aux païens qui peuvent la fouler aux pieds. Une variante de cette compréhension est que le temple, c'est le peuple juif, le judaïsme. Le sens serait alors qu'il y aurait des gens protégés dans le peuple juif. Certains parleront des 144 000, tandis que les autres seront dominés par l'Antichrist. Contre ces sens un peu symboliques, il me semble que le contexte en Apocalypse est quand même à une vraie ville de Jérusalem. Vous lisez ça en Apocalypse 11, verset 8. Donné au mot « ville sainte » du verset 2, alors un sens symbolique, ça me choque. Je ne peux pas me résoudre à cela. Ça ne me semble pas une très bonne lecture. Et puis, je ne sais pas si j'ai une logique un peu détraquée, mais j'ai toujours trouvé un peu difficile d'imaginer que l'Antichrist puisse s'asseoir dans un temple symbolique. Essayez de vous asseoir dans un temple symbolique. Je trouve ça très difficile. Je peux m'asseoir dans mon bureau, mais pas dans mon bureau symbolique, pas plus que j'ai demandé tout au début de la rencontre, à 9h30, j'ai demandé à Samuel, selon ce qu'il avait mis dans son invitation, de bien vouloir me verser une tasse de café virtuelle. Et ma gorge est restée assez sèche. On ne peut pas s'asseoir dans un temple symbolique. Alors, on peut tourner ça comme on veut, mais en fait, c'est de la blague. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas possible. Je pense que les premiers lecteurs de la lettre aux Thessaloniciens auraient automatiquement compris. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà. Les premiers lecteurs auraient automatiquement compris le temple de Jérusalem. Il n'y en avait qu'un temple de Dieu et il se trouvait à Jérusalem. La troisième, non, on n'est pas encore là. Une autre raison, c'est qu'en Apocalypse, tout cela est lié à une certaine durée qui est précisée tant par 42 mois que par 1260 jours, que par un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je ne veux pas entrer là-dedans, c'est une histoire qui nous prendrait trop de temps ce matin, mais la répétition même de cette durée, dans le contexte de l'Apocalypse, me semble indiquer tout sauf un temps symbolique. Et il me semble que ça pose un vrai problème à toute lecture symbolique. Ce qui veut dire que je suis arrivé à la conclusion que le temple dont Paul parle et dont Jean parle dans l'Apocalypse est réellement le temple de Jérusalem, ce temple qui n'existe plus, qui n'existe pas encore. Vous le savez probablement comme moi, qu'une bonne partie de Juifs sont activement occupés à préparer la reconstruction du temple. Je n'entrerai pas non plus dans les détails là-dessus. Bien sûr, ça veut dire que le dôme du rocher devrait partir, mais tout bâtiment, par définition, peut partir. Il n'y a pas de bâtiment éternel dans notre bas monde. Quand est-ce que la bête va s'y asseoir? Daniel 9, 27 me dit que à la moitié de la semaine, l'Antichrist, parce que je pense que c'est de lui qu'il est question, l'Antichrist va rompre l'alliance avec Israël. Ce serait alors à ce milieu de semaine, donc après les 3 ans et demi, avant la deuxième partie des 3 ans et demi. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce détail, mais je pense que je suis relativement sûr de ce que j'avance. Il s'asseyera dans le temple et va donc tromper le peuple avec qui il fait alliance d'abord. On n'en est pas encore là, mais ces choses peuvent aller relativement vite. Ce qui est tout aussi intéressant, peut-être encore plus intéressant, c'est que Paul ajoute à cela qu'il y a quelque chose qui retient l'Antichrist. Vous savez, verset 6, ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Les Thessaloniciens savaient ce que nous ignorons, et malheureusement, ils savaient, parce que s'ils ne l'avaient pas su, Paul aurait expliqué, et nous, on aurait su. Mais Paul dit, vous le savez, donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. Est-ce que Paul veut être prudent? Certains l'ont suggéré. Et on a beaucoup parlé sur cette puissance qui retient, qui est à la fois marquée dans le neutre au verset 6 et dans le singulier masculin au verset 7, un ce et un celui, il s'agit de qui? Laissez-moi tout simplement vous énumérer quelques-unes des suggestions. On a dit, c'est le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit n'est plus là, le mal peut se libérer complètement. C'est sans doute vrai au niveau théorique. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit, ce et celui qui le retient? On me dira que esprit en grec est un neutre, donc ça irait bien avec un ce, et on parle souvent de l'esprit comme celui, bien sûr. Mais je ne suis personnellement pas nécessairement convaincu. On a dit, ah, mais c'est l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, le mal peut librement se répandre. C'est en fait un peu la même chose, bien sûr, parce que Dieu ne peut pas enlever son esprit et laisser l'Église, ni vraiment vice-versa. Mais je ne suis pas sûr que c'est là le problème, que c'est là une possibilité. Cela serait forcément, dans ce cas-là, une lecture où pratiquement la première chose dans le développement du temps serait l'enlèvement de l'Église. Or, Paul a dit dans le même texte que l'Église verra venir l'Antichrist. Et donc, ce qui l'empêche est déjà parti. Donc, ça me semble, ça peut pas être l'Église. Et donc, pas l'Esprit. Alors, on a dit que cela pourrait être l'Église catholique. Le ce, c'est l'Église catholique, la structure, et le celui, bah, c'est le pape. On entend ça encore aujourd'hui. Je ne suis pas trop convaincu, parce que je ne suis surtout pas convaincu que l'Église catholique, et je parle surtout de l'Église très structurée, pas de certains croyants individuels, c'est une autre question. Mais je ne pense pas que l'Église catholique arrête l'Antichrist. Et si je lis bien Apocalypse 17, je pense que l'Église va plutôt encourager et accueillir l'Antichrist. Donc, ça ne me semble pas convenir. On a dit, ah, c'est l'Empire et l'Empereur. Mais l'Empire romain a disparu et il n'y a plus d'empereur. Est-ce que ça pourrait être ce que représente l'Empire, la loi romaine et ce que nous, on appellerait probablement la société de droit, l'état de droit. Là, nous sommes, je pense, vers un candidat beaucoup plus sérieux. Ça me tente beaucoup plus. Quelque chose représenté par des gens nécessairement qui, dans l'état de droit, empêche l'homme sans loi de se manifester réellement. Ça me semble assez intéressant comme suggestion. Elle est proposée par un certain nombre d'interprètes évangéliques d'ailleurs. On a dit, oh, ça c'est l'évangélisation. Mais l'Antichrist apparaît quand il y aura encore de l'évangélisation. Selon moi, ce n'est pas possible. Je suis tombé cette semaine en me préparant sur une citation que je vais vous laisser tout simplement, je vais vous la traduire en passant, d'un auteur que j'apprécie beaucoup, que je suis en train de lire. Et il a écrit ceci. Dans un sens totalement non théologique, je vois Trump, et vous comprenez que ça a été écrit avant les événements tout récents, je vois Trump comme le katechon. Le katechon, c'est en grec celui qui retient. Je ne crois pas que les forces politiques qu'il retient peuvent encore être retenues pour longtemps, tout simplement parce que ces forces sont de plus en plus populaires. Ce que nous pouvons espérer, c'est que des leaders politiques et judiciaires puissent le retenir assez et pour assez longtemps pour nous donner l'occasion de bâtir des institutions et d'autres structures qui nous permettront de survivre au déluge qui vient. Je pense que cet auteur n'est pas évangélique, je pense qu'il est catholique, catholique croyant. Et il ajoute, si des chrétiens comme moi votent pour Trump en 2020, c'est seulement à cause de son rôle de katechon, celui qui retient ce qui est pire. C'est ce qui a motivé beaucoup de chrétiens outre-Atlantique à voter pour Trump dans les deux élections, d'ailleurs, 2016 et 2020. Il freinera et peut-être arrêtera le chaos qui est en train de se libérer aujourd'hui, quoi qu'on puisse penser de Trump, ce que vous pensez de Trump, ça ne m'intéresse pas, c'est pas assez important. Pas la question de Trump. C'est ce que Trump a empêché. Et Trump a gêné. Ça, on en a tous été témoins. Pendant 4 ans, on a tout fait pour l'enlever de sa place. Et même maintenant qu'il est enlevé, ce n'est pas encore assez. Il faut encore l'écraser et on veut enlever quiconque a osé soutenir cet homme. Il a gêné. Est-ce qu'il est celui qui retient? Je ne fais que citer ce que cet auteur récent nous en a dit. Ce que le texte souligne, c'est que Satan est derrière l'Antichrist. Son avènement, l'apparition se fera grâce à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires. Ce n'est donc pas... Et je pense certains croient cela aujourd'hui. Ce n'est donc pas tout simplement un politicien qui a réussi. Il y a plus que cela en jeu. C'est un homme démonisé. C'est un homme qui est, et je pense qu'il le saura, il est, moi je dirais ça comme ça en Apocalypse 13, il est l'incarnation de Satan, membre de la fausse Trinité. J'en parlerai tout à l'heure. Il faut un amour très radical de la vérité, nous dit la fin de ce texte en 2 Thessaloniciens, pour tenir debout. Paul le dit, il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils ne sont pas restés fermes à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Et Dieu enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça, c'est ce que l'Écriture dit assez sobrement. C'est notre attachement viscéral à la vérité qui est une des rares choses qui peut nous garder sains et saufs dans la séduction qui est en train de venir. Ou, si vous croyez que c'est encore futur, qui va venir. Le portrait, ensuite, le plus détaillé, est le portrait de Apocalypse 13. Je ne vais pas lire tout ce chapitre, mais c'est tout le chapitre qui est consacré à la venue de la bête. Il y a une certaine trinité diabolique qui nous est présentée, qui est faite par le dragon, Satan, le diable. Il est identifié ainsi au chapitre 12. Il y a la bête qui est en quelque sorte son fils, son incarnation. Regardez en Apocalypse 12 et 13 la comparaison entre l'apparence du dragon et l'apparence de la bête. On voit bien qu'il y a là une identité de cœur et d'apparence assez frappante. Et puis bien sûr, un peu plus loin est mentionné le faux prophète. Il est identifié ainsi au chapitre 19, qui est manifestement la singerie de l'Esprit-Saint et qui est là dans le rôle du propagandiste, du vendeur de la bête et qui va faire en sorte que la terre entière finira par se rassembler comme un seul homme derrière cet homme malfaisant. Si Daniel s'est concentré sur l'origine politique de la bête, il sort du quatrième empire, du milieu des 10 rois. L'Apocalypse semble plutôt souligner son origine diabolique. On n'est pas devant un simple politicien, bien qu'il peut être un politicien, peut-être même déjà présent actuellement. Ça, je n'en sais rien et je ne me prononce pas là-dessus. Ce que Apocalypse nous dit assez clairement, c'est qu'il va avoir une blessure. Laissez-moi vous lire cela en Apocalypse verset 13, verset 3. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Ça semble assez évident que le candidat antichrist passe par des problèmes graves. De quel ordre? Ben, soit d'ordre physique, soit d'ordre politique. Mais il passe par quelque chose dont l'issue devrait être la mort physique ou la mort politique. Je ne suis pas bien décidé à choisir entre les deux. Le temps nous le dira. Mais c'est quelque chose de très frappant, de très évident et suffisamment évident pour que son retour est vu par le monde comme un miracle. pour le moment, inutile de le dire, mais il n'y a personne qui correspond à cela. On ne peut pas encore identifier la bête. C'est, selon moi, impossible. Mais ça fait partie de l'identité. C'est quelque chose qu'on doit garder à l'arrière du crâne quand on réfléchit sur ces choses. Est-ce que cela aura lieu au tout début de son apparition, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire au milieu, avant qu'il prenne une envergure planétaire? Je l'ignore. Ça me semble, à prime abord, plus logique de le voir au début. Mais bon, si quelqu'un veut se battre pour que ce soit au milieu, je pense que le texte n'est pas suffisant pour que nous puissions le nier. Cette guérison miraculeuse, peu importe dans quel domaine, va avec une couverture médiatique, on imagine très bien organisée, va faire courir le monde entier derrière lui. On va dire, c'est pas possible. Celui-ci, c'est différent. Et on va le suivre comme un seul homme. Je pense que cela ne correspond à aucun des empereurs romains qu'on a mentionnés comme candidats antichrist du temps de Jean. Ce serait de son temps, Domitien, mais ça correspond à rien. Ça prouve seulement qu'on connaît son histoire, mais pas assez bien pour réellement identifier. Non, ce culte-là est encore à venir. Et on s'imagine bien que pour que ce culte mondial puisse exister, il faut bien des moyens modernes, Internet et autres, pour que cela soit possible. Et surprenante, les foules qui se sont détournées de la foi chrétienne, qui se sont détournées de la superstition catholique, qui ont regardé avec mépris vers cette foi biblique, vont adorer la bête et vont adorer le diable. Parce que le texte le dit, c'est d'abord le diable qui sera adoré. Quand la bête se guérit, peu importe dans quel sens, il faut le comprendre, les peuples adorèrent le dragon, pas la bête. D'abord le dragon. Et ils adorèrent aussi la bête. Donc il y aura un culte occulte, un culte diabolique qui devient mondial. Ça, c'est ce que nous dit le texte biblique. Donc c'est à cela qu'il faut s'attendre. La nature a horreur du vide, nous le savons. Il n'est donc pas nécessairement un athée, pas au sens classique, pas un homme froid qui est imperméable à tout sentiment religieux. C'est beaucoup plus pernicieux. Il veut être adoré. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Le texte nous indique ensuite son heure. Nous avons ça un tout petit peu plus loin. Avant cela, notons cette façon de parler d'être égorgé. C'est exactement le même mot qu'utilise le texte plus tôt pour parler de l'agneau immolé ou égorgé. L'Antichrist est réellement le vicaire de Christ, le remplaçant de Christ, celui qui veut singer le Christ. La période de la bête, nous sommes de nouveau dans cet ensemble de mentions de 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps qui remplissent les textes de l'Écriture en Apocalypse 11, 12 et 13, qui ne sont pas obligatoirement toujours la même période. Si je lis bien la prophétie de Daniel 9, il s'agit de deux périodes de durée égale. Je pense, mais je n'ai pas le temps de le développer, que la première période, c'est ce qu'on appelle la tribulation, ou si vous voulez, la grande tribulation. Et je ne peux que souligner que le mot tribulation dans l'Écriture s'adresse toujours aux chrétiens. Ce n'est pas quelque chose dont les chrétiens sont gardés, mais quelque chose que les chrétiens doivent traverser. Et puis, la deuxième partie, je pense, c'est la partie de la colère de Dieu. Cela est clair dans le texte de l'Apocalypse et cela correspond bien sûr à ce que j'avais cité tout à l'heure, que Jésus nous délivre de la colère à venir. Il me semble que l'Antichrist atteint son apogée après la première période de 3 ans et demi. Période où, me semble-t-il, dans l'Apocalypse, tout se concentre. C'est, je pense, d'après le texte, c'est le temps où deux témoins apparaîtront à Jérusalem et l'Antichrist ne peut rien contre eux. Première mention de l'Antichrist en Apocalypse, c'est en Apocalypse 11 et au verset 7, lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, les vaincra et les tuera. L'apparition de la bête se fait, autrement dit, si on le cadre sur le temps de l'Apocalypse, pendant la période des jugements des sept trompettes. Si cela est exact, c'est comme ça qu'il faut parler. Si cela est exact, jusque-là, c'est à venir. Mais ça semble être ce qu'il faut comprendre. Du moins, c'est ma conclusion après avoir étudié cela quand même pendant des longues années. Si cela est exact, l'Antichrist vient ou est au pouvoir pendant un temps de grand trouble. Si vous lisez Apocalypse 8 et 9, vous pourrez très vite vous en convaincre. C'est un temps où le texte semble décrire des échanges nucléaires. Je cite dans mon livre le commentaire d'un physicien nucléaire allemand qui m'avait toujours impressionné. Ça date du XXe siècle, mais je pense essentiellement qu'il avait vu assez juste. Le temps de la fin, ce temps de la montée au pouvoir de l'Antichrist est un temps de grand trouble où les gens ne sauront plus où donner la tête. Qui peut nous sortir de cela? C'est dans un tel temps que l'Antichrist va monter au pouvoir. Pouvoir probablement plus limité au début. Peut-être aussi géographiquement plus limité. Apocalypse 17 le lie à la ville aux sept collines, ce qui a toujours été Rome, ce qui semble arrimer l'Antichrist assez clairement à la vieille Europe et peut-être au sud de l'Europe plus particulièrement. Et peut-être que nous verrons en ces temps et sur notre continent également des choses décrites en Apocalypse 8 et 9 extrêmement déplaisantes. On peut prendre tout cela dans un sens symbolique. L'Église dont je suis originaire a toujours pris ces choses au sens symbolique. J'ai fini par me lasser de cela. Ça ne correspond pas. ça finit par ne plus rien dire. Et ce n'est pas pour rien que dans l'église de ma jeunesse, on n'en parlait jamais. Quand tu rends tout symbolique, tu n'as plus rien de quoi parler. C'est trop flou, c'est trop vague. Et je pense qu'il faut nous garder d'une lecture symbolisante de ces choses. Il y a de l'opposition à l'Antichrist. Apocalypse 13 est clair là-dessus, au verset 7. Apocalypse 13, verset 7 nous dit, il lui fut même permis, donné littéralement, de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu, aux saints, et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Ça prouve que les chrétiens sont présents. Et il fait, comme le disait Daniel, la guerre aux saints. Ça lui est donné par qui? Par Satan? Il me semble plus juste de le comprendre, donné par Dieu. Tout reste sous l'autorité de Dieu. Et c'est une des choses qui, je pense, doit nous donner du courage dans cette période. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il ne perd pas la main. Il reste celui qui est souverainement au contrôle. La bête qui doit venir est présentée, quand on lit un peu entre les lignes de ces textes, ce sera quelqu'un d'extrêmement séduisant, visionnaire, virulemment antichrétien, très moderne, très intelligent, indestructible et totalitaire. Il ne faut pas voir quelqu'un avec des cornes. Il faut pas voir quelqu'un aussi démoniaque que Adolf Hitler. Je crois que il faut le voir comme infiniment plus moderne que cela et infiniment plus séduisant encore. Il ne faut pas caricaturer l'Antichrist. Je pense que il est trop dangereux que pour faire cela. Comme l'heure tourne, laissez-moi terminer avec un dernier point. Je ne vais pas vous parler du faux prophète, juste quelques mots sur la marque de la bête. On m'a demandé, est-ce que tu crois que la vaccination COVID peut être la marque de la bête? Pense à prime abord que ce n'est pas le cas. Je peux comprendre que des gens soient tentés à le voir ainsi. Je remarque, et ça me glace l'âme, je remarque que si c'est cela, beaucoup de chrétiens vont assez facilement se laisser prendre. Si la marque de la bête a un lien avec la situation sanitaire actuelle ou future, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris durant cette année. Si on va jouer sur la santé des gens, et donc des chrétiens, la marque de la bête, dans la mesure qu'elle pourra nous garantir, guillemets au début, guillemets à la fin, la garantie du vaccin n'est pas plus grande que ça non plus. Mais si, dans l'esprit des gens, ça pourra nous garantir contre une maladie, même si elle pourrait ne jamais nous arriver, les gens vont passer assez facilement à l'acception. Et ça m'inquiète. Que quelqu'un veut se faire vacciner, ça, c'est pas mon problème. Je ne le ferai jamais. Je ne suis pas fou, comme on dit à MediaMarkt. Mais si quelqu'un veut se faire vacciner, c'est votre liberté la plus totale, bien sûr. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais je ne pense pas que la vaccination est la marque de la bête. Je pense qu'on n'y est pas encore. La marque de la bête est quelque chose qui est apposé sur le front ou sur la main droite. Main droite, dans le grec, ça peut être un ensemble du pouce jusqu'au doigt. Ça a l'air d'être quelque chose qui est clairement apposé, quelque chose de physique, quelque chose de concret. C'est géré par un chiffre, 666. Et je terminerai sur ce qui me semble les trois possibilités d'interpréter cela. La plus ancienne, c'est qu'on y voit un nom et on a décodé assez facile parce que tant en hébreu qu'en grec, dans les temps bibliques, les chiffres sont remplacés par les lettres de l'alphabet. Donc, on peut très facilement lire, et on l'a fait, Néron César, en grec ou en hébreu, je ne me rappelle plus, ça fait 666. Chez nous, on n'a pas cette habitude. Donc, ce serait très artificiel de le faire. On a bien sûr essayé de coller cela sur beaucoup de noms dans l'histoire et cela ne donne pas, je pense, de bons résultats. La deuxième lecture est de le voir comme un symbole, tout comme 7 est le chiffre de la perfection, on dira que 6 est le chiffre de l'homme. Cela semble effectivement le cas. Lui est 3 fois 6, mais il ne pourra pas atteindre le 3 fois 7 de la perfection divine. Et certains ont remarqué que le nom de Jésus en grec égale 888. Peut-être. Sans enthousiasme. Une autre possibilité symbolique qui me tente davantage, c'est la lecture de ce chiffre en grec, tel qu'il est dans le texte de l'Apocalypse. Vous avez chez nous on dirait le X, hein, mais c'est le Chi, qui est la première lettre de Christ, Christos. Vous avez le S à la fin, le sigma, qui est la dernière lettre du nom Christ. Et vous avez entre deux une lettre, le Xi, qui ressemble à un serpent. Le serpent qui se présente comme le Christ. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment cela. Et en soi, c'est une idée qui me tente assez bien, mais je pense que cela n'épuise pas le sens. La troisième variante est aussi intéressante, c'est de se rendre compte que les chiffres romains, I, V, X, L, D, pas le M, les Romains n'avaient pas le M, le M est plus tard, quand on est arrivé à l'an 1000. Quand on ajoute ces chiffres, 500 plus 100 plus 50 plus 10 plus 1, on arrive, plus 5 plus 1, on arrive à 666. Le total de ce qu'on peut compter. Ça aussi est trop intéressant pour le balayer tout simplement. On a là, je pense, deux sens symboliques qui sont très tentants et qui donnent du sens. Mais je pense qu'il y a une troisième qu'il faut y ajouter, et ça ne me gêne pas de l'ajouter et de voir plusieurs sens. C'est de voir 666 comme nous le verrions dans notre temps, comme un code informatique. Et c'est bien un chiffre. Et l'insistance dans le texte est là-dessus, n'est-ce pas? Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Je ne vous cache pas que en 81 ou 82, j'étais pasteur à Hanu, j'avais un banquier pour voisin, avec qui on s'entendait d'ailleurs à merveille, un catholique croyant, et un jour, je lui ai demandé, mon voisin, est-ce que vous pouvez me tracer si le code bancaire 666 est déjà utilisé ou attribué dans notre pays. Le lendemain, il est revenu spécialement tôt de son bureau Il croyait que j'avais, il connaissait un peu son voisin de pasteur, il croyait que peut-être que j'avais reçu un don de quelqu'un. Donc, il a voulu être vite et il m'a dit, en fait, le code 666 n'est pas encore en usage, mais il est attribué à la carte bancaire. Il est attribué, si je le traduis à ma façon, au système censé remplacer l'argent. Je dois vous dire que j'ai eu quelques frissons dans le dos. J'ai dit, on est déjà si près. Je ne tiens pas ça là de quelqu'un d'autre ou d'un écrit prophétique. Je tiens ça tout simplement de mon voisin de banquier qui ne savait vraiment pas de quoi je pouvais parler. Ça ne lui a jamais traversé l'esprit que ça pouvait venir de l'Apocalypse. Il ne connaissait pas. Donc, je tiens ça de quelqu'un de relativement objectif. Et ça m'a toujours trotté dans la tête. Et je pense que ça reste une autre possibilité. Je constate en regardant mes extraits bancaires que le code 666 n'est toujours pas utilisé. Loin, je n'ai pas trouvé trace. Mais quand cela devrait être utilisé, que le lecteur fasse attention, comme le dit quelque part le livre de l'Apocalypse. Nous vivons dans des temps fascinants, un peu inquiétants, troublants, mais fascinants. Nous voyons sous nos yeux des choses se faire qu'on n'a pas vues pendant des siècles. Quand on a demandé à un chrétien évangélique aux Pays-Bas dans les années 30, est-ce que Hitler n'est pas l'Antichrist? Il a dit non, non, c'est impossible. Parce que la Bible dit, ça devrait être notre réaction. La Bible dit, dit-il, que Israël doit revenir dans son pays. Et ce n'est pas le cas. Donc Hitler n'est pas l'Antichrist. Il a raison. Appliquer ce que dit la Bible. Nous vivons 60, 70, 80 ans plus tard. Nous voyons autour de nous l'accomplissement d'un grand nombre de prophéties. Nous voyons sous nos yeux une dictature antinomique se mettre en place. Je suis sidéré que nous sommes aujourd'hui dirigé par une dictature au sens de ceux qui dictent aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est ça une dictature, qui nous ont fermé les églises et beaucoup d'autres choses, j'en suis bien conscient. Si on me l'avait dit en décembre 2019, je ne l'aurais pas cru, et vous probablement pas non plus. Mais ça s'est fait presque du jour au lendemain, et ça s'éternise. Pour des raisons que je crois ne pas être valables. J'ai écrit une lettre là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus ici. Mais nous vivons dans une dictature qui est en train de décider à notre place ce qui est et ce qui n'est pas essentiel. Et ça devrait nous choquer. Et je vois avec tristesse que la plupart des gens ne sont même pas choqués. J'aurais cru. Ça aussi, si on m'avait dit ça en 2019, j'aurais dit, oh, on aura les foules dans la rue pour protester. Mais il n'y a personne, ou presque, dans les rues. On se plie. On se plie parce qu'on a peur et on a peur parce qu'on nous a fait peur. Nous voyons, je l'ai dit au début, nous voyons aux États-Unis une autre dictature s'installer par la triche sous nos yeux. Nous vivons dans des temps fascinants. L'Antichrist n'est pas loin. Je ne dis pas qu'il sera là avant la fin de cette année. Je n'en sais rien. Mais il commence à être temps, grand temps, de se préparer à cette idée, de se préparer à ce que la persécution, ce n'est pas seulement quelque chose qui frappe les autres, mais qui pourrait venir jusqu'à chez nous. Voilà, je voudrais m'en arrêter là. je suis sûr qu'il y aura des remarques, des commentaires, des questions. On a encore un bon quart d'heure.
Edbert, je pourrais poser une question.
Jean-Pierre.
Est-ce que tu peux... Je sais donc que tu connais ton livre, L'Apocalypse, la mémoire du futur. Est-ce que tu as d'autres ouvrages à nous recommander, à nous proposer? Puisque j'ai toujours été conscient que assister à un exposé ou à un séminaire ou à un congrès, c'est toujours intéressant. Mais posséder un ouvrage sur lequel que tu peux lire, sur lequel tu peux revenir, sur lequel tu peux repenser, etc., ajouter des notes, bon voilà, c'est aussi enrichissant et c'est beaucoup moins volatile, je vais dire, malgré tout l'intérêt, je veux dire, que tu as apporté ici à ton exposé. J'ai enregistré, c'est très bien, mais est-ce que tu as d'autres ouvrages qui sont recommandables et qui sont sérieux pour que l'on puisse encore repasser toutes ces choses intéressantes d'actualité, ben je vais dire dans le cerveau, dans le cœur, etc.
Je passe régulièrement au bon livre, ce n'est pas loin. Je feuillette régulièrement ce qui sort sur l'Apocalypse et la fin des temps. Je suis un peu triste de voir que pratiquement tout ce qui sort en commentaire sur l'Apocalypse est désespérément symbolisant. Et je regarde sur certains textes qui me tiennent particulièrement à cœur et qui me semblent importants. Et je ne suis pas du tout satisfait par les commentaires. Je suis un peu triste que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus de débat. Je n'ai encore jamais reçu, et j'en suis triste, je n'ai encore jamais reçu, à aucun de mes livres d'ailleurs, une réaction d'un chrétien qui me dit, je ne suis pas d'accord avec toi, pour telle et telle raison. Ce que tu dis là, non. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Dans le monde d'avant, une normalité de notre siècle, malheureusement, on avait débat. Aujourd'hui, chacun s'enferme dans son opinion et il n'y a aucune discussion. Je remarque que des livres, par exemple, font référence dans la bibliographie au mien, mais pas dans le texte. Or, je pense que c'est dans le débat d'idées qu'on avance et qu'on progresse. Je suis donc fort déçu par la plupart des choses que je vois apparaître. Dans les choses anciennes, il y a le commentaire qu'on peut trouver, encore trouver, le commentaire d'Alexander, avec qui je diffère sérieusement d'opinion sur la question de l'enlèvement de l'Église, mais qui dit beaucoup de choses intéressantes. Il y a le commentaire de comment ça s'appelle encore, la série sur Ancien et Nouveau Testament en français. Comment ça s'appelle encore?
À noter.
Comment?
La Bible à noter.
La Bible annotée. La Bible annotée est librement accessible sur Internet. Vous pouvez la télécharger très facilement. Et vous avez des choses très intéressantes. C'est assez sérieux comme commentaire. Et ça, c'est accessible. Il y a aussi, malheureusement, beaucoup de mauvais livres. J'ai, sur un de mes blogs, j'ai fait une analyse d'un livre qui voulait nous vendre que la ville aux sept collines, c'est la Mecque, et que l'Antéchrist, c'est musulman. Et j'ai essayé de démonter, argument par argument, ce que ce livre avance. Ce livre, heureusement, a perdu beaucoup de sa popularité. Je me rappelle quand c'était sorti, quelqu'un m'avait demandé, est-ce que tu as déjà lu? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas non plus énormément. Mais si tu l'as, si tu peux me le passer, je ne veux pas y mettre de l'argent, mais je veux bien le lire et je le commenterai et je t'enverrai le commentaire. Donc j'ai publié cela. Il y a bien sûr aujourd'hui beaucoup de visions et de prophéties qui circulent et qui ne valent en général pas le papier sur lequel ils sont imprimés.
C'est justement la grosse difficulté qu'il y a dans ce domaine,
Comme dans tous les autres domaines, puisque tu disais que, il y a plus de débats, mais c'est vrai dans tous les domaines, il n'y a plus de débats, il n'y a plus que des confrontations. Hein. D'ailleurs, quand on met des gens sur un plateau de télévision, c'est pour les faire se disputer, pour attirer de la discussion. Enfin, il y a encore des émissions intéressantes dans les radios. Si vous voulez savoir, je peux vous donner des informations. Mais c'est justement ça aussi, dans ce domaine de l'Antichrist et de l'Apocalypse, il y a tellement d'extravagance, tellement d'extrémisme, de complotisme, que ça décourage. Ça décourage et on trouve toutes sortes de bêtises énormes qui n'ont plus rien à voir avec la Bible et qui sont des interprétations fantaisistes. Et qui, au lieu de stimuler le chrétien, le décourage.
Ma prétention est de rester fidèle au texte. Vous pouvez feuilleter mon livre, le lire. Je reviendrai toujours au texte biblique. Et comme je veux rester fidèle au texte, j'utilise, pour l'Apocalypse, je crois que c'est inévitable, j'utilise un mot qui est un des mots clés de mon commentaire. Il semble. Il semblerait. Il apparaît. Il y a des choses dont on ne peut pas dire beaucoup plus. Et il faut rester honnête et ne pas annoncer avec certitude ce qu'on ne peut pas encore savoir. Même si on peut dire il semble, parce que le texte nous est donné pour qu'on réfléchisse et pour qu'on essaye de trouver le sens. Mais il ne faut pas avoir trop de prétentions, surtout pas sur un livre. Mais il ne faut pas non plus, j'ai dit ça dans le début de mon commentaire, s'attaquer à l'Apocalypse comme si l'Apocalypse ne fait pas partie de la Bible. Je m'explique. On établit sa doctrine sur la base des 65 autres livres de la Bible, et avec cette doctrine établie, on va lire l'Apocalypse et on va forcer l'Apocalypse dans le corset de l'opinion qu'on a acquis. Je pense que c'est une erreur. Il me semble que l'inspiration du Saint-Esprit court jusqu'à Apocalypse 22, le dernier verset, et que l'interprétation se fait sur l'ensemble de la Bible après Apocalypse 22. Et Apocalypse doit donc nous aider dans ce domaine à fonder et à bâtir notre opinion et ne pas imposer une opinion à l'Apocalypse. Et je vois malheureusement beaucoup de cela. Par exemple, dire que, et ça n'a plus rien à faire avec l'Antichrist, dire que le millénium, c'est aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est ne pas lire l'Apocalypse. Parce que Apocalypse 20 n'est pas un chapitre qui est au milieu de nulle part.
Oui, mais tu comprends que le livre, quand même, est différent. C'est un livre qui a un style, un genre de littérature différent des épîtres, par exemple.
Oui, bien sûr, la même chose est vraie pour les prophètes, la même chose est vraie pour les évangiles. Mais ce n'est pas une excuse de rendre tout symbolique, tout simplement parce qu'on a déjà arrêté son opinion sur ce que ça peut et ce que ça ne peut pas être.
Non, mais c'est comprendre le symbole qui est présent, qui se réfère à une réalité.
Oui, mais je dis, et je l'ai dit dans mon livre, quand le texte de l'Apocalypse nous présente des symboles, le livre les explique. Et dire que quelque chose est symbolique quand il ne l'est pas, je pense que c'est une erreur. J'ai dit, je ne parle pas là d'Apocalypse 20, je parle là d'Apocalypse 8 et 9, qui sont des textes particulièrement compliqués, et je me suis posé la question, ce n'est pas symbolique? Ce n'est pas littéral. Littéral devient souvent un peu littéraliste. Mais est-ce possible que Jean, et ça me semble très logique, que Jean ait vu des choses qui appartiennent à notre temps, qu'il essaye de décrire avec le langage et la compréhension de son temps? L'exemple que je cite en général, c'est tout simple. Imaginez que vous ayez la compréhension et le vocabulaire du temps de l'apôtre Jean, on est donc à la fin du premier siècle, et vous devez décrire un hélicoptère. Je vous souhaite bonne chance. Et je pense que si vous y attaquez avec sérieux, vous allez arriver à quelque chose du même genre que Apocalypse 8 et 9. Et donc, je conclue, moi, que ce n'est pas symbolique, ce n'est pas une créature que Dieu crée pour l'occasion, une sauterelle formidable, mais que Jean essaye, lutte avec le vocabulaire et avec la compréhension pour décrire ce qu'il voit. Il n'y arrive pas. Donc, il fait de l'à peu près.
J'avais d'autres questions.
Parce qu'il a vu.
J'avais d'autres questions qui étaient plus en lien avec l'Antichrist, Hubert, si on a le temps.
Vas-y, Paul.
Tu dis au début que Joe Biden est celui qui est arrivé avec ce programme contre la vie, contre les valeurs chrétiennes et ainsi de suite. Et tu dis après que Trump l'a retenu en place. Est-ce que...
Non, je n'ai pas dit ça, j'ai cité cela.
Il a retenu d'avoir cette influence et maintenant cette influence est relâchée. Est-ce qu'on va en conclure que tu penses que Joe Biden est l'antichrist ou c'est
non,
juste...
non, pas du tout.
C'est un exemple du type de comportement qu'on
va voir. Je n'ai jamais regardé cela ainsi. Pour commencer, on est beaucoup trop près des événements pour en avoir déjà ce genre d'opinion. Je pense que Biden incarne certainement un régime antichrétien. Oui, ça, j'en suis profondément convaincu.
Ouais.
Je pense que les chrétiens d'Amérique vont passer par des années très compliquées, et nous, sans doute, avec.
Donc, c'est un exemple de programme antichrétien plutôt que d'identification formelle avec...
Ah oui, je n'ai pas identifié, je pense, dans aucune de mes paroles.
Ah, c'était juste un sous-entendu. Alors.
Okay. Non, c'est un sous-entendu.
Et de parler avec arrogance qu'on trouve décrit, qui décrit justement la bête, l'antichrist qui parle avec arrogance, ça, tu ne vois pas un rapprochement avec Trump qui justement a parlé avec beaucoup d'arrogance sur les réseaux sociaux, etc.
Non, pas du tout. Trump n'était pas un anti-chrétien, ce qui est autrement plus important, je pense, à considérer. Il n'était pas un anti-chrétien, bien le contraire, je pense même. Et peut-être qu'il a connu une évolution durant ses années à la Maison-Blanche de ce côté-là. Il était clairement en faveur des valeurs chrétiennes, je pense notamment au niveau avortement. C'est manifeste. Pour le reste, je ne sais pas si je peux oser dire cela ici, mais plus d'une fois, j'ai dit à ma femme en écoutant le président Trump qu'il est con. Pourtant, j'aurais voté pour lui, probablement, si j'étais américain. Comme beaucoup de chrétiens ont voté pour lui. Je me rappelle, j'avais fait une série d'articles en 2016 autour de l'élection.
C'est le moindre mal, oui.
Parce qu'on a voté non pas tant pour lui que contre l'autre. Et même en 2020, je pense que c'est le même cas.
Et dernière question, à puis je me tais. Tu parlais au début aussi du fait que Dieu patiente avant de juger. Combien de temps va-t-il encore patienter? Mais tu crois, n'est-ce pas, que Dieu peut juger dans les temps présents et intervenir contre tel pays, contre tel... dictature.
Bien sûr, il l'a fait contre l'Allemagne.
Dans un sens, on peut voir alors ce jugement présent, même dans les 5-10 prochaines années, sans nécessairement que cela entraîne des autres choses.
Ok, je comprends et je ne suis pas d'accord. Pourquoi suis-je pas d'accord? Parce que contrairement à toutes les époques passées, le mal aujourd'hui et le même mal est présent partout. Vous n'allez pas vous réfugier en Afrique, j'ai habité 3 ans en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas vous réfugier en Afrique et vous croire à l'abri de l'avortement. C'est tout le contraire. Vous pouvez aller en Israël et découvrir que le taux d'avortement est sensiblement pareil à chez nous. Ces problèmes sont partout. Et donc, Je ne pense pas que c'est le propre d'un pays. On ne peut pas noircir les États-Unis sans noircir la Chine, la Russie, la Belgique. C'est partout. Et donc, je pense que c'est le jugement au sens plus absolu qui arrive. Je me rappelle un mot de frère André. Si Dieu laisse faire ce qui se passe à Amsterdam, frère André est un Hollandais, il vit toujours. Si Dieu laisse faire ce qui se passe à Amsterdam, il devrait offrir ses excuses à Sodome et Gomorrhe. Frère André qui disait cela. Et bien sûr, la fin va venir. Et le mal, maintenant, mondial.
Mais toute la difficulté pour nous, enfin je vais dire chrétien, mais je me considère quand même comme commun des mortels, pas plus évolué qu'un autre, c'est quand même de discerner dans cette avalanche d'informations qui nous conditionne, c'est de discerner les choses essentielles pour que l'on puisse avoir, si tu veux, les bonnes réflexions, les bons avertissements, qu'on puisse prendre conscience de davantage du plan de Dieu qui avance. Et indépendamment d'un Trump ou de Biden, je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur la personnalité ou le physique de ces gens-là. Il faut voir, je pense, la politique, les tendances qui se dégagent pendant le règne, pendant la présidence, par exemple, c'est les États-Unis de ces gens-là. Mais notre difficulté à nous, je pense, c'est dans l'avalanche, si tu veux, d'informations qui est vraiment, moi je me sens en tout cas manipulé, parce que quand la pression de l'information est constamment centrée sur des choses, pendant quelques mois sur ceci, quelques mois sur ça, je me sens oppressé, je me dis il y a comme quelque chose derrière qui nous manipule et qui nous empêche de discerner des choses essentielles. Voilà, c'est très mal dit, je ne sais pas très bien comment m'exprimer, mais je me sens mal à l'aise en tout cas aujourd'hui. J'écoute les grandes lignes des informations, mais tout le blabla qu'il y a après, je me dis ben, non, il y a autre chose, autre part qui est plus intéressant que cela. Et le fait d'écouter l'information officielle nous empêche réellement de discerner des points essentiels qui restent masqués et qui ne sont jamais soulevés. Donc, c'est une difficulté pour le commun des mortels de comprendre et de voir clair dans les choses aujourd'hui. Enfin, moi, c'est mon sentiment, en tout cas.
Oui. Nous sommes certains à appeler la RTBF la Pravda, la version officielle du régime, la propagande. Et je le sens comme toi, on est manipulé. Il y a autre chose qui est en train de se tramer. Parfois, au grand public. C'est pas ce que essaye de faire le Forum économique de Davos avec leur grande réinitialisation. Ce n'est pas un secret. C'est dans le public. Parfois, on ne peut pas mieux cacher les choses qu'en les révélant.